Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés quand ils marchent dessus, qu'ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'âme. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
De Radio Occitanie et de la poésie, Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Le jeudi 18 novembre de cette année, à l'hôtel d'Assesa, dans ce magnifique décor de cette bâtisse du XVIe siècle, va avoir lieu un événement important pour la ville de Toulouse et pour l'avenir de la ville de Toulouse. Car la ville de Toulouse ambitionne d'être aussi la capitale de la poésie, et ceci conformément à cette tradition séculaire des troubadours et de l'Académie des Geoffroy. Alors pour cette journée importante qui va préparer l'anniversaire du 700e anniversaire donc de l'Académie, qui aura lieu en 2004, une journée entière est consacrée à la poésie, la poésie contemporaine, et nous aurons le plaisir, d'abord il y aura un colloque sur qui connaît les poètes aujourd'hui, c'est une interrogation, avec plusieurs ateliers, et l'après-midi nous aurons le poète Adonis qui sera reçu maître S.G.E. par l'Académie des Jeux Floraux, et le poète J'aime Sacré également qui sera reçu maître S.G.E. de cette académie. Étant précisé que, à la suite de ces cérémonies, J'aime Sacré nous offrira une conférence sur la poésie et sur son parcours poétique. Alors, J'aime Sacré, c'est une des grandes voix de la poésie actuellement. Il est né le 17 mai 1939 à Cougou, c'est dans le village de Saint-Hilaire des Loges, c'est en Vendée. Il passe son enfance dans la ferme de ses parents en Vendée. Il est d'abord instituteur, puis instituteur itinérant agricole. Il part en 1965 vivre aux États-Unis, où il poursuit des études de lettres. C'est là qu'il enseigne à l'université de Smith College dans le Massachusetts. Il fait également de nombreux séjours en France et ailleurs en Europe, l'Italie, la Tunisie, le Maroc. Et puis, en 2001, il rentre en France et réside depuis à Montpellier. J'aime Sacré commence à écrire dans les années 70, en plein littéralisme. Son premier livre s'intitule néanmoins « Cœur, élégie, rouge ». Les sentiments ne seront donc pas absents de cette écriture. L'auteur a par ailleurs consacré sa thèse doctorat au sang dans la poésie maniériste. C'est donc d'emblée une poésie charnelle qui s'écrit, associant étroitement le cœur qui aime et celui qui bat, le cœur qui saigne et celui qui nous fait vivre de sa régulière pulsation. J'aime Sacré est très attaché au paysage et à la géographie. De nombreux textes sont consacrés au terroir de l'enfance. Les motifs centraux en sont la maison, la ferme, le jardin et le village. La mémoire joue un rôle important. Tout un travail de rémémoration est à l'œuvre afin de rendre le passé aussi vivant que le présent et de les fondre l'un dans l'autre. La poésie de J'aime Sacré n'est pas pour autant égocentrée. Elle s'ouvre à l'autre, l'appelle et l'accueille. Les voyages sont l'occasion de repenser l'identité, l'altérité et la relation amicale ou amoureuse. La passion de l'auteur pour le Maghreb, donnant lieu à de nombreux voyages, donne aussi naissance à de nombreux livres. La poésie est alors animée par un désir d'ouverture et de chaleur, de coprésence heureuse avec l'autre. Elle cherche une manière heureuse d'être ensemble, qui laisse s'écouler le temps avec douceur. L'un de ses poèmes favoris est celui où il parle d'un mariage au Maghreb dans « Viens, dit quelqu'un ». Antoine Dimas, dans sa magnifique préface de « Figures qui bougent un peu », livre que je vous invite à vous procurer, il est dans la collection Poésie Gallimard. Antoine Dimas écrit « J'aime Sacré peut varier la forme tant qu'il veut, puisqu'il reste dans la même unité tonale de la langue, la sienne, deux points, entre guillemets, des phrases comme une musique plutôt que du sens. » Des phrases comme une musique plutôt que du sens. La langue est poussée dans ses retranchements, ses limites, sans devenir obscure ou illisible. En cela, J'aime Sacré pourrait être un exemple de poète expérimental clair. Voilà, comme Antoine Dimas résume d'une façon magnifique et parfaite la posture poétique de J'aime Sacré. Alors il règne une poésie métaphysique incontestable chez J'aime Sacré, mais dans une langue donc qui n'effraie pas. Depuis longtemps, les poètes parlent de choses très familières auxquelles ils s'intéressent, mais ce n'est pas le quotidien qui m'interpelle, dit J'aime Sacré, c'est le vécu. Je sais très bien que l'on n'arrive pas à exprimer tout le vécu dans les mots, car dans le transfert il y a des choses qui disparaissent, mais je persiste, dit-il, quand même, dans ce parti pris de parler à partir de l'expérience du vécu tout simplement. Et le vécu, c'est le quotidien, même quand il s'agit de choses au loin ou de choses racontées par les journaux, etc. Le quotidien, c'est l'immanence du monde. Je suis, dit J'aime Sacré, un matérialiste, et cette immanence du monde s'ouvre sur l'énigme du monde, sur l'obscurité du monde. Fatalement, cela dérive sur la question du vivre, des valeurs. La poésie naît toujours d'une expérience, ne serait-ce que celle de la langue et des mots employés. Comme l'a si bien révélé Antoine Dimas, J'aime Sacré écrit des façons de langue parlée. Il a connu le patois poitevin, son père le parlait, sa mère résistait. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui en ligne, J'aime Sacré. J'aime Sacré, bonjour et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup, Christian Saint-Paul. Oui, c'est un plaisir de répondre à votre invitation.
Alors, J'aime Sacré, d'abord, il faut annoncer cet événement qui est pour nous un événement, effectivement, de votre conférence, dont nous reparlerons le mardi 9 novembre, puisque vous nous avez également réitéré ce plaisir d'être avec nous ce jour-là, c'est-à-dire dans deux semaines, et nous reparlerons donc de votre intervention pour le 18 novembre. Mais aujourd'hui, J'aime Sacré, nous allons essentiellement parlé. Il y aurait tellement de choses à dire, parce que quand même, quand on regarde tout ce que vous avez écrit, ça donne un peu le vertige. Mais il y a un très très beau livre qui vient de paraître aux éditions Tarabuste. Il s'appelle « Quel tissu se déchire ?»« Quel tissu se déchire ?» C'est un livre de près de 300 pages, de 230 pages, pardon, dans la collection Reprise, aux éditions Tarabuste, un livre qui vous coûtera 15 euros, que je vous invite vraiment à vous procurer, parce qu'il fait la somme quand même d'une œuvre importante de J'aime Sacré. Alors, pour présenter ce livre, J'aime Sacré, je crois que le mieux, c'est de vous entendre lire la première page de ce livre, où vous expliquez, en gros, quel va être le fil conducteur de l'ensemble de tous ces poèmes.
Oui, voici alors cette première page. Quelqu'un est mort, un livre s'écrit. Le livre ne sait pas s'il viendra un dernier poème, sinon par la disparition de la main qui l'écrit. Un poème qui serait par accident le dernier. À nouveau, du vivant s'enfermera dans le mot mort. Le livre ne comprend pas ce que signifie l'expression « faire son deuil ». Certes, quelqu'un n'est plus là, et chaque poème qui s'écrit le redit. Beaucoup d'autres visages, beaucoup de misères, de bonheur de vivre ne sont plus. Chaque fois que le livre croit parler de ce père disparu, il parle de la mort qui vient, qui est là, contre laquelle il affirme du vivant, en vain. On entend des voix qui disent ne pas pouvoir faire leur deuil. Que disent-elles vraiment? Que disent-elles sinon leur désir d'oublier ce qui les dérange dans la mort de l'autre? Accomplir des rituels qui effaceront le scandale qu'est la mort, faire son deuil, parole du plus vital égoïsme peut-être. Se mesurer un temps de souvenir qu'on s'imagine intense pour mieux oublier. Écrire ces poèmes relève sans doute aussi d'un rituel, mais sans qu'il soit pensé comme un deuil à faire et qu'on n'en parlerait plus. Si un jour le livre s'arrête avant que la main qui l'écrit ne meure, on devine que rien ne sera résolu pour autant. Il pourra aussi bien reprendre un peu plus tard. Le livre continué n'oublie pas, il oublie quand même. Le portrait du père n'est que le portrait des souvenirs incertains de celui qui l'écrit, sinon même l'invention en mots de ses souvenirs. Portrait de souvenirs en travers de ce qui serait le courant vif d'une mémoire. Chaque poème comme un caillou d'oubli dans le tourment de ne plus être avec ceux qui sont partis. Car avec chaque poème, la main sait dès le premier mot venu qu'elle désire écrire un poème autant que penser à quelqu'un qui n'est plus là pour le lire. Le livre, comme le temps, continue dans le désordre et l'imprévisible déroulé de sa présence. Les mots l'emportent en le construisant. Ils reprennent ceux déjà venus, se souviennent des motifs déjà utilisés, proposent des titres comme des attaques d'étapes dans un parcours pour nulle part. Mais le temps de l'autre, un autre déjà rendu au nulle part de la mort, en travers de notre temps continué, en travers du livre continué.
C'était l'introduction, voilà, à ce livre qui est un livre en trois parties, hein, qui donc peut se décomposer en trois parties. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ces trois parties?
Oui, en effet, le livre est dans cette collection qui s'intitule Reprise, et donc il s'agit de la reprise de deux volumes précédents. Qui portait le titre générique de Portrait du Père en travers du temps. J'ai gardé le premier titre, ce titre pour le... j'ai changé ce titre pour le premier livre qui s'intitule maintenant « S'il n'y a que du silence ». Le deuxième, ensuite, a gardé son titre d'origine, c'était aux éditions La Dragonne, un effacement continué, et s'ajoute à ces deux titres un troisième, Quel tissu se déchire, qui reprend donc le titre d'ensemble du présent volume. Et je continue d'écrire ce livre qui normalement n'aurait pas de fin, puisque il ne s'agit pas de clore un deuil, il s'agit d'être dans le souvenir de quelqu'un qui a disparu. Voilà. Et effectivement, si on regarde de près, je crois que qu'il y a des changements qui s'opèrent un peu dans chacun des livres, parce que peut-être quelque chose s'épuise dans le premier et quelque chose d'autre arrive dans le second, et puis le troisième s'aperçoit que peut-être on quitte de plus en plus un vrai souvenir du père disparu pour sans doute être plus attentif au poème qui s'écrit. Vous voyez, il n'y a pas d'ordre prévu dans ce livre. Je garde les poèmes dans l'ordre chronologique où ils viennent, mais cette chronologie finit par reconstruire elle-même le livre. Comme j'ai un peu dit et que je le redis dans quelques-uns des poèmes, les poèmes les plus récents se souviennent effectivement de ceux qui ont été écrits d'abord, des motifs qui ont été employés, qui sont repris, ressassés ou qui changent un peu. Voilà, hein, c'est très intéressant en fait de voir cette espèce de vie du livre qui progresse au fur et à mesure des poèmes qui arrivent.
Alors je crois que le mieux, c'est de commencer, si vous le voulez bien, par lire quelques poèmes de ce livre avant de débuter un petit peu notre entretien, pour que les auditeurs aient quand même une idée de ce qu'est le poème. Hein. Je veux dire que ça n'a rien de difficile ni d'effrayant, la lecture de vos poèmes. Au contraire, on y entre de plein pied. Et je crois qu'ils sont immédiatement audibles. Je vous écoute, J'aime Sacré.
Voilà donc une première série de poèmes. 2001. Si je crois pouvoir penser te garder vivant dans ces mots, c'est évidemment pas vrai, c'est que du plaisir ou de la peine qu'on entendra dans mon poème, ça n'est que moi qui reste vivant. Tes derniers gestes vers mes yeux pour mettre ensemble nos cœurs silencieux, s'ils ne pensaient pas déjà à cet aujourd'hui sans toi. Du silence à d'un coup rempli de l'espace entre l'enfance et jusqu'à demain, je n'entendrai plus le patois que parlait mon père, et le peu qui m'en reste, à quoi désormais en mesurer le grain? La langue natale nous quitte avec ceux qui nous la disaient. Déjà nous l'avions laissé se perdre beaucoup. École et rencontres, lecture et matière et manière qu'on s'est donné. S'il n'y a plus que des ordres et des errances où des poèmes font bruit d'un improbable langue. 2003. Un peu plus tard, c'est la tante Madeleine qui meurt. Des souvenirs qui m'en restent, je voudrais pouvoir dire que j'aime n'avoir pas revu son visage. Après une dernière visite en sa maison, son visage tranquille et pétri de l'infinie patience d'avoir vécu, en acceptant que les autres la blessent et lui rendent la vie quotidienne pas si facile. C'est pas juste de vouloir ainsi écarter sa souffrance des derniers jours. Je peine à l'imaginer et presque pleurer. Ne change rien à rien, rien. Tante Madeleine est morte, je vois toujours la mélancolie de son sourire dans ses cheveux devenus très blancs. Mon chagrin n'est évidemment pas sa douleur, qui voulait peut-être rester vivante. 2005. fortement entre le faux et le vrai, des colères, la solitude et ce mélange de plaisir et de distance gênée avec les autres et les choses du monde, le visage vivant de mon père. À quoi penser maintenant qu'il est des matières pourries qui ont séché? Il me reste de son corps la coupe rose des joues, l'œil comme une question dure, son allure à la fin mal balancée. Ça me reste tout ça, et quelle importance! Souvent je n'écris pas les quelques mots qu'un moment de la vie, la couleur bleue par exemple de la bouillie bordelaise, a semblé me donner pour que je pense à mon père. Je laisse le temps et les choses s'en aller. Un peu plus tard, je me souviens mal et ça fait comme si un visage s'enfonçait à reculons dans les années. Bientôt, plus qu'une allure et vaguement, le mouvement d'un bras qui actionne quelque sorte de machine à sulfater la vigne ou des rangs de pommes de terre dans le jardin. Dans le jardin. 2009. Je ne cherche pas un père. Je ne cherche pas le père que j'aurais voulu avoir. Je cherche le père que j'ai eu. 2010. Tu n'étais ni Léonard ni Michel-Ange, mais que serait le sourire de la Joconde sans les mirabelles du fond de ton jardin? À cause qu'ayant dormi dans l'inconfort, mais pas si mal, dans les fauteuils pas doux de l'aéroport, j'ai pensé à tout le vivre de peu dans ta vie, rudesse que tu aimais, je crois, comme un défi à je sais pas quoi. Maintenant, dans la mort, c'est comment le confort de ton cercueil. 2017. Chacun sait qu'en vieillissant, du moins les gens d'un certain âge, on voit de plus en plus les autres qui sont vous, au large de notre vie continuée, des noms, des visages, des livres et des gestes. Tout récemment, par exemple, des noms de poètes dont j'aimais la parole, ou peut-être la seule sonorité de leurs noms et prénoms. Ton visage qui s'en va, mon père, celui d'un frère, ceux de ma mère et d'autres, qui maintenaient vivant celui de mon village, le monde comme une charpie livrée au vent.
Si vous le voulez bien, James Sacré, nous avons là déjà l'aperçu de ce qu'est ce livre de poèmes qu'elle tissue se déchire. Et on voit tout de suite que le fil conducteur de ce dernier livre, c'est la mort. Alors, pour aborder un thème aussi angoissant, le poème est-il la forme la plus accomplie de la gravité qui en découle? Je dis pour les auditeurs que effectivement ce poème, nous l'avons écouté, mais qu'il est important aussi d'avoir le texte sous les yeux, de le lire, pour voir par exemple quel est l'emplacement des vers, comment un mot revient à la ligne, etc., ce qui donne quand même toute une indication dans le sens du poème.
Oui, bien sûr, la mort, c'est évidemment angoissant la plupart du temps, peut-être pas pour tout le monde, mais souvent. Maintenant, sur le plan littéraire, la mort est aussi un thème qui parcourt toute notre littérature depuis longtemps et toutes les littératures de toutes les langues, probablement. En France, il suffit de se souvenir, par exemple, des vers de la mort de Linon de Froimont au XIIe, début XIIIe siècle. Et plus encore, à la fin du XVIe siècle, l'énorme volume de sonnets de Jean-Baptiste Chassignet, qui sont tous autour du motif de la mort. La mort ici, oui, c'est un motif qui revient parce motif très présent en littérature, mais bien sûr aussi parce que c'est quelque chose de très présent dans la vie au fur et à mesure qu'on vieillit. Il y a d'abord eu ma fille, j'ai écrit un livre qui s'intitulait Une petite fille silencieuse après sa mort. Ensuite, il y a eu donc la mort de mon père, la mort de quelques amis. Voilà, c'est une matière quand même vivante autour de ce problème de la mort qui a appelé du moins des mots. Hein, je ne sais pas si c'est en vain ou pas, mais c'est ce qui se passe.
Est-ce que le poème, de par son essence même, n'engage pas une gravité aussi, qui...
Alors, je pense que le poème n'engage rien de plus grave que n'importe quel autre geste de vivant qu'on continue à faire après la mort de quelqu'un qu'on a aimé, par exemple. Le poème est une sorte de geste de mots en plus des autres, hein, qui indique simplement bêtement la douleur de qui reste vivant ou le scandale de rester vivant après la mort de tant de personnes et même on peut élargir le problème, de tant de choses, de villages entiers par exemple dans mon cas ou de civilisations presque entières dans le cas de certaines guerres.
Mais la forme du poème, n'est-ce pas plus facile et plus, comment dirais-je, plus appropriée qu'un geste familier?
Alors, votre question voudrait qu'on puisse définir le poème par rapport aux autres genres littéraires. Alors, je crois effectivement que dans le poème, par l'intermédiaire d'un jeu de l'énonciation plus directement évoqué ou présent et plus près de l'émotion du vécu plus près de l'émotion que le vécu a pu provoquer chez quelqu'un que le texte en prose d'un roman ou d'un récit ou même du théâtre qui implique davantage les autres autour de soi. Donc effectivement, le poème, d'une certaine façon, mais pas complètement, est sans doute plus près du vécu de l'auteur, hein, et donc plus approprié pour dire ses sentiments. D'ailleurs, dans l'histoire de la poésie, on voit bien que le lyrisme, par exemple, jusqu'au XVIe siècle et un peu plus tard même, est une affaire de forme, de thèmes particuliers, hein, par exemple l'amour, la mort, le vin, d'autres, et que surtout avec le XIXe siècle, bien sûr, mais depuis, il est devenu davantage une parole de l'intimité et du sentiment. Même si au XXe siècle, il s'est un peu compliqué de psychanalyse ou de réflexion plus approfondie, justement, autour du jeu, hein, autour de ce jeu qui s'était peu à peu imposé dans le lyrisme de la langue française.
Avec la mort du père James Sacré, n'est-ce pas toute une partie de vous qui disparaît aussi, celle par exemple de l'écoute de la langue du père, le patois? Vous comprenez que c'est une question qu'on allait vous poser ici à Radio Occitanie. La langue natale nous quitte, vous dites, avec ceux qui nous la disaient.
Oui, oui, bien sûr, parce que il y a de moins en moins de monde autour de nous qui la parle, et si on ne l'entend pas parler, on en perd, comme je disais, on en perd le grain. On ne sait plus si on la reprend dans sa matérialité, vraiment. Et effectivement, on perd des façons de penser, des façons de sentir le monde autour de nous, toute une façon de vivre. C'est sûr. Maintenant, cette langue natale, dans mon cas particulier, ce n'était pas vraiment un patois pur, parce que mon père parlait effectivement, ou aimait beaucoup parler le patois, tandis que ma mère, qui venait d'un village, d'une ferme paysanne, mais située en bordure d'un gros bourg vendéen, le parlait beaucoup moins, et même aurait eu tendance à nous empêcher, nous les enfants, de le parler. Donc ma langue natale, c'était plutôt une sorte de mélange de patois et de français. Je ne l'ai jamais vraiment très très bien maîtrisé, et peut-être qu'après, quand je suis passé forcément d'une façon définitive au français, au beau français de l'école, je n'ai peut-être non plus jamais bien maîtrisé ce beau français, parce que il n'empêche que mes débris de patois, mes débris d'intonation du patois, mes débris de sonorité du patois, quelquefois je ne savais pas si l'expression que j'employais était du patois ou du français, et même encore aujourd'hui, font que dans le français aussi je me retrouve dans une langue un peu caviardée.
Alors, si vous voulez bien, nous allons poursuivre avec des lectures de poèmes.
Oui, alors je vais vous lire une série où j'essaye de mettre en évidence ce qu'est le poème dans toute cette histoire de portrait du père. Voilà. Il n'y a pas d'exercice à faire, pas de but à poursuivre, et le livre qu'il y aura, à la fin, ne voudra rien dire de plus que n'importe quel bouquin proposant des poèmes. D'aucuns s'amuseront de son futile souci, d'autres, mais qu'importe, et mon père n'en pensera rien. C'était en 2005. 2006. Il y a tout un grand mouvement tournant de la montagne, en vert et quelques pans de roches nues, entre le vent qu'on entend et le bleu silencieux du ciel. Et là, sur une étendue d'herbe clairsemée, sol pierreux, un fragile et léger comme une jetée de couleurs en tissu brodé, un fragile et léger fleurissement de coquelicots. C'est la vallée du Jabron, m'y voilà, à l'occasion de journées de poésie. J'ai lu tout à l'heure une page d'un Brabant double avec des voiles, et dans ce paysage où la vie paysanne sans doute est difficile, avec ce livre où j'ai pensé à mon père, est-ce que vraiment le souvenir de ses gestes brusques, lents, et quand j'ai pu le voir faucher du seigle et la couleur de quelques fleurs, est-ce que cela, mon carnet ouvert sur la tête d'un piquet de clôture, est-ce que cela m'accompagne encore, ici, dans ce poème et le bruit du vent ? 2012. Je m'en vais participer à un colloque de 2 journées, autour des livres d'Edmond Amran El-Maleh, pas d'études écrites, mais une suite de poèmes peu à peu venus déjà, pour d'autres occasions de célébration, et quelques nouveaux pour ces journées de Meknès, en somme assez, comme lentement s'écrit ce portrait du père en travers du temps. Est-ce qu'ainsi je pourrais m'en aller dans l'écriture d'un livre avec n'importe qui que j'aurais connu ? S'agit-il vraiment de toi, mon père, quand du temps passé, l'idée de la mort et tes gestes disparus orientent ma rêverie, ou si je ne prends pas seulement prétexte du malheur de chacun, du tien, pour installer confort d'être et quasiment du plaisir dans mon poème 2012. Parfois, le désir d'écrire me vient parce que je pense à ce livre que je veux continuer, Portrait du Père en travers du temps. Avec le peu de contraintes que je me suis donné, garder les poèmes dans l'ordre chronologique de leur apparition, ce qui n'empêche pas que peu à peu se précise une sorte de composition, chaque nouveau poème se souvenant à l'occasion des autres qui l'ont précédé, et le souci d'écrire un livre te chasse hors du poème bien plus qu'il ne t'y maintient. 2019. Avant d'arriver dans la plaine côtière du Languedoc, le train coupe à travers des garrigues, garnies de quelques vignes qui dessinent, dans ces premiers jours de décembre, des lignes de cèpes et sarments sans feuilles. Il n'y a plus de neige que de la couleur rousse et grise, et le sombre vert des cyprès, des oliviers de cendre. Des nuées plombées pèsent sur le paysage bientôt. Ça sera la fin de cette traversée ferroviaire, si du plaisir restera d'avoir écrit dans le souvenir de quoi vraiment. Ce train de quelques poèmes qui m'aura conduit, forcément, un peu plus loin de toi dans le temps. 2018. Je disais que le livre se construisait seul, assez, à cause de l'effet qu'auraient forcément les premiers poèmes sur ceux qui suivraient, et qu'ainsi peu à peu j'aurais ce portrait d'un père, en somme objectivement tiré des mots qu'il me donne sans que vraiment je les arrange. Mais rien de si satisfaisant. Je ne sais pas ce que mon père m'a donné. Les mots, je les prends aussi, à d'autres que lui, à d'autres qui sont morts aussi. Portrait de qui, en travers du temps. 2019. Tout un héritage de rien qui s'en va finir en mots. Le mot père, le mot paysan, la petite serpette pour s'en aller couper le soir à manger pour des lapins blancs. Quelque part, entre Carcassonne et Toulouse, on passe d'un paysage de garrigues à des arbres plus grands. Bientôt les feuillages plus denses, beaucoup de vert, c'est comme un poumon très respirant, les mots venaient avec l'avancée de la voiture sur l'autoroute. Venaient portant le souvenir d'un visage, pas forcément souriant, mais qui savait raconter son village et des gens, le visage du père, son corps ramassé, trapu, des histoires et les gestes qu'il fallait, des gestes d'armes et grands feuillages de paroles pour les rendre vivants, si je raconte aussi. Poème qui va sans rien dire, sinon le bruit de ces mots qui portent en se demande un passé mal saisi qu'on a pourtant parcouru. Voilà.
Alors, on a déjà une bonne écoute hein, de cette voix qui vous porte dans le poème et qui est vraiment qui on peut reconnaître du gemme sacré, je dirais, au quatrième vers quoi. Le style est immédiatement perceptible et il nous entraîne aussitôt dans un univers qui est certainement le vôtre, mais que l'on s'approprie tout d'un coup, et je dirais sans restriction. Et alors c'est sur ce style aussi que je voudrais vous interroger, parce que il y a beaucoup de contraires chez vous, la résolution des contraires, hein, elle se réalise un peu dans vos poèmes. Vous dites « indifférent et pourtant pas à la mort de mon père ». Vous dites « tout ce que mon père est en moi et qu'en même temps, ça n'est pas lui ». Je dis cela, je dis rien. Alors, est-ce que cela exprime une espèce d'authentique révélation métaphysique due en même temps
Voilà une question un peu difficile. s'agit pas, c'est pas vraiment dû en même temps, oui. Au sens, par exemple, politique d'aujourd'hui.
Voilà, c'est ce que
parce que oui. Il s'agit pas de mettre ensemble deux choses qui ont l'air deux choses différentes qui ont l'air contradictoires, comme par exemple, disons, le bien et le mal,
oui.
Hein, même si dans d'autres poèmes, dans d'autres livres, j'ai un peu senti que dans le bien il y avait du mal et que dans le mal il pouvait y avoir du bien. Non, ici vous voyez à chaque fois dans ce que vous citez, il s'agit d'une même chose.
Voilà.
Mais d'une même chose qui est là et qui n'est pas là. Voilà. Alors, c'est effectivement ce en même temps, c'est un en même temps qui ne cherche pas à résoudre quelque chose, mais au contraire qui montre finalement, il ne cherche rien à prouver ni vraiment à dire, mais qui montre que qu'il n'y a pas de résolution, qu'il y a cette espèce de contradiction continuellement présente dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on vit. Je pense que c'est pour moi c'est un peu ça qu'il y a derrière ces associations de formulations contraires.
D'accord. Quelque chose un peu ineffable là-dedans, non?
L'ineffable, l'indicible, ce sont des mots que je n'aime pas trop employer, parce que si c'est ineffable, indicible,
oui,
on ne sait pas
dire
ce que c'est.
Oui.
Hein, et c'est peut-être très important, mais c'est peut-être aussi simplement des fantasmes et absolument rien du tout. Hein. Donc, disons, je préfère garder le mot énigme, par exemple, vous voyez, qui ne résout rien, hein, qui dit simplement une difficulté.
Voilà, c'est la difficulté. C'est ce qu'on peut retenir, hein, de façon plus simple. Voilà, cette difficulté, en définitive, de dire c'est ça ou c'est ça.
Oui.
Puisque c'est un peu les deux. Alors le poème, on va aborder la poésie du quotidien, hein. Le poème naît de souvenirs du quotidien, du changement de vie au fil du temps. Le quotidien qui fut décrié, hein, par les poètes autrefois, n'est-il pas le levier poétique pour soulever toute l'étrangeté inaperçue de l'évolution de la vie? Par exemple, vous parlez des restaurants. Et vous dites, moi je ne suis jamais allé au restaurant avec le père. Et aujourd'hui, en définitive, aller au restaurant est pour vous une banalité absolue.
Oui. Oui. Oui, j'aime bien. Je ne pense pas que j'écrive absolument une poésie
du quotidien. Oui.
Mais j'écris quand même. J'aime beaucoup, par exemple, écrire sur le motif, hein, aussi bien pour les paysages que pour. Ce livre autour de mon père où la plupart du temps chaque poème est un poème écrit à un endroit où je m'arrête et il y a autour de moi je ne sais pas, par exemple un pont avec la Saône qui coule par là ou l'intérieur d'une église ou n'importe quoi, hein, donc le quotidien est toujours tout proche et très présent, et je vois bien qu'il nourrit par les mots qu'il donne, par les rythmes même qu'il peut donner quand on est par exemple au bord d'un fleuve, ça nourrit vraiment l'écriture du poème. Et ce que j'aime bien dans le quotidien aussi, c'est que justement il a le pouvoir de mettre en question la prétention de ce qui ne se dit pas être quotidien, de ce que qui aurait tendance à se dire d'être sublime, éternel, etc. Vous voyez, le quotidien permet une sorte de critique de la de la prétention des poèmes, souvent. C'est pour ça que j'aime bien ce quotidien, parce que il permet cette critique, et en même temps il dit, en fait, et de façon beaucoup plus familière, beaucoup plus intime et donc beaucoup plus forte, la même énigme du vivre, hein, que n'importe quelle grande question métaphysique. Donc j'aime beaucoup être dans le voisinage du quotidien.
C'est ce que Georges Perrault appelait aussi la vie ordinaire.
C'est
lui redonner sa grandeur.
Je vais comparer à Georges Perrault, qui a une expérience du quotidien vraiment extraordinaire, même si c'est du quotidien ordinaire. Évidemment.
Et c'est lui redonner sa grandeur, en définitive.
Oui, il ne faut pas non plus, après, il faut se méfier. Le piège, c'est de valoriser le quotidien et de retomber dans le problème de la valorisation de l'extraordinaire.
D'accord.
Et c'est, le quotidien, c'est piégeant également.
Oui.
Hein.
Oui, vous voyez.
Il faut aussi, sans doute, rester capable de critique envers le quotidien. L'humour, l'ironie sur soi-même, ça peut aider beaucoup.
Oui, dans vos poèmes, n'en manquez pas.
Oui, de temps en temps, oui.
Alors, il y a dans des poèmes de ce livre, vous faites ressurgir un passé qui révolue, dans lequel moi, parce que bon, c'est ma génération, hein, et je me suis aussi reconnu, en particulier, vous parlez des banquets, repas, des jours de battage. Moi, j'ai connu ça dans les fermes riégeoises, dans les années 50, où avaient lieu ces repas extraordinaires. On me mettait pendant les vacances dans une ferme où il y avait 17 personnes, tous les jours. Hein, c'est une famille qui était composée de 17 personnes, et vraiment, les jours de battage, où c'était vraiment l'effervescence, c'était un jour de fête extraordinaire, où toutes les autres fermes venaient, etc. Il y avait un repas, les femmes préparaient ce qu'on appelait les coques, c'est-à-dire des gâteaux de toute la journée précédant ce jour-là. Et tu me dis, le poème, il fait ressurgir ce passé révolu.
Oui, en effet, il est révolu. Parce que ces battages, c'était pas seulement une journée, comme vous avez, comme vous venez de dire, il y avait tous les voisins qui venaient quand on battait chez vous. Mais ensuite, vous deviez des journées à tous ces voisins, et donc la fête des battages durait une bonne semaine.
Oui, c'est ça.
C'était un gros village. Enfin, de toute façon, il fallait beaucoup de monde pour faire marcher cette grosse machine à battre. Et voilà. Et puis il y avait c'était le moment qui mettait en relief cette vie communautaire qui existait dans un village. Moi, j'habitais dans un village où il n'y avait que des fermes. Il y avait une vingtaine de fermes, il n'y avait rien d'autre. Et à l'occasion des battages, si par exemple vous portiez les sacs, vous visitiez tous les greniers du village, vous découvriez des tas de façons d'être chez les voisins, etc. Et c'était à la fois un moment communautaire dans le travail, mais aussi dans tout un tissu de vie qui ne paraissait pas au cours de l'année dans d'autres activités. Ça existait là vraiment très fortement à ce moment des battages. C'était vraiment une période tout à fait étonnante. Comme vous le dites aussi, on peut dire que tout cela a disparu, en tous les cas de France. Je ne sais pas s'il y a encore des pays où il y a des travaux communautaires comme cela dans le monde paysan. Peut- communautaire au niveau des ensilages. Hein, quand on récoltait et qu'il fallait accumuler les fourrages pour les ensiler et les recouvrir d'un espèce de plastique noir, y mettre des pierres, tout ça, il y avait à nouveau quelque chose de communautaire, mais on peut dire qu'aujourd'hui ça pour ainsi dire disparu. Alors est-ce que le poème peut faire revivre tout cela?
Oui, je vous dis oui, moi. je l'ai senti comme ça.
Oui, bien sûr.
Il y a une nostalgie,
c'est
à la fois...
C'est parce que vous avez vos propres souvenirs.
Bien sûr, mais le poème sert à ça aussi, hein, c'est à faire ressurgir chez l'autre quelque chose qui sera différent peut-être d'un individu à l'autre, mais qui l'interpelle et... Et qui le marque.
Ouais, c'est bon. Alors, chez quelqu'un qui n'a pas du tout vécu cette sorte de civilisation, parce que c'était une civilisation différente de ce qui se vit maintenant dans les campagnes et dans les villes. Alors, quelqu'un qui n'a pas du tout vécu ça, je ne sais pas si le poème est capable de. Je pense que le poème là parle peut-être au fantasme qu'il peut avoir autour de ses anciennes coutumes ou façons de vivre. C'est, le poème, ça parle aux autres que dans le partage de quelque chose qui est en fait étranger quasiment au poème, si je comprends bien.
Il nous reste 7 minutes. Je crois qu'on va les occuper peut-être. On va vous écouter encore, si vous voulez bien, au moins 5 minutes.
Oui. Je vais lire quelques poèmes pour revenir au thème du père, mais quelques poèmes d'un autre livre, de figures qui bougent un peu, sur le père encore vivant et puis sur l'idée de la mort, sur la notion de mort. Figure 3. Dans les yeux de mon père, soudain l'absence. Un pays sans arbres, pas de pays. Le regard comme de la transparence et de la folie, nulle part, et c'est comme tellement proche. La porte d'une grange vide bat, le reste oublié d'une récolte est là. Il y a un mélange de bleu presque fleuri et de temps gris dehors. Je sais pas où dehors, et quel intérieur mal clos. Son béret sale qu'il a sur l'œil, l'autre mi-clos. Mais celui-là comme violent, comme... Ce qui peut-être est la mort, un espace hors du sens. Le froid, le silence, comme un fusil qui regarde. Le temps s'en va, son visage, pourtant l'autre œil, la saleté tendre. Il est debout sans que je sache trop où, dans le hangar. Par exemple, c'est un long jour de pluie, ça sent. Le bois, les bidons d'huile remuer ses bottes. Sa barbe mouillée, maintenant il brosse un peu. La terre qu'a mis le sac, retroussé en coin capuchon. Sur son béret, le ramener sur les yeux, silence. L'entend la pluie, pas grand-chose à dire, continuer. Pour que ça fasse un bloc tout d'une page, à cause de mon désir de rester plus longtemps. Avec des mots familiers, les outils qui traînent, la marotte. Au fond du hangar, des planches debout, les couleurs grises. Un parapluie défait, est-ce que c'est vraiment mon père? Cet homme silencieux dont je parle pourtant. Ses grimaces, le fil de fer, les choses dans ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, le mélange du mot cœur avec le mot silence? Je commence à comprendre l'insignifiance au loin, dans ce hangar ouvert à la pluie froide. L'absence avec ses grimaces, la saleté familière, dans le vide et la tendresse, c'est pareil, qui fait le regard de mon père au loin. C'est pareil quand il est là, ça continue dans mon poème. On peut relire encore, ça veut vraiment rien dire. Et quelques poèmes sur la figure de la mort. Est-ce qu'on peut parler de la mort pas venue encore? Des gens qu'on aime pour leur dire maintenant le silence de ce qu'on dirait peut-être alors et parce que c'est peut-être moi qui vais mourir d'abord ou trop juste après eux pour avoir le temps de construire quelque chose avec des mots avant tout cas, c'est pas simple d'imaginer que quelqu'un est mort quand il est encore vivant, même si c'est loin dans l'absence, et des gestes qu'on ne saurait plus comprendre malgré d'autres qu'on a connus, ou tellement près, au contraire, dans la familiarité menteuse à force, comme une odeur qu'on sent pas, une pendule qu'on dirait silencieuse. Pourtant elle marche, est-ce que la mort c'est pareil? Cette même hésitation sans importance à la fin entre quelque chose qui serait très loin et quelque chose qui serait là. Je sais pas, comme par exemple une touffe d'ortie derrière, un hangar un peu défait, pierre, poème et boulet. Qu'est-ce que ça veut dire s'habituer à la mort, à l'idée que la mort peut venir maintenant, je comprends mal. Même si le temps se construit dans la guerre au loin, dans un travail un peu désagréable, dans le froid, la solitude. Est-ce que c'est pas forcément mourir que ça veut dire? Oublier par exemple les autres qui meurent, la mort, comme une pendule qu'on n'entend pas, pourtant elle marche. Ce qu'on peut faire, c'est de s'habituer seulement à la peur de la mort, je l'entends partout. Avec son rire mal fleuri, le travail qu'on fait tous les jours, le temps des faits dans la guerre et la solitude partout. Je voudrais pas mourir, pourtant ça n'a pas trop d'importance qu'on meure, certainement pas plus que la rouille et les fleurs d'une vieille maison, avec des arbres grands et beaucoup de bleu autour, ou bien pas plus que des mots trouvés dans un poème de Miloche. Je voudrais pas mourir, mais je vois bien qu'il faut dire cela dans presque la poussière, avec des précautions de langage tellement dérisoires, des précautions de vivant. Voilà.
Merci, James Sacré. Alors nous allons poursuivre cette émission le mardi 9 novembre. Hein, nous l'avons à peine abordé en définitive. Je rappelle les titres des poèmes que vous avez lus, que vous trouverez dans « Quel tissu se déchire » aux éditions Trabuste, également « Figure qui bouge un peu » et autres poèmes chez Poésie Gallimard. Merci, James Sacré, et donc, dans 15 jours, merci beaucoup.
Merci beaucoup aussi.
À bientôt, donc.
Oui.
Avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons, leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié, avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur.